Je rappelle d'abord les séminaires. Tout à l'heure, à 11h, ce sera Astrid Lambrecht, du laboratoire Kacler Bruxelles, qui va nous parler de relativité du mouvement dans le vide quantique. La semaine prochaine, le 16, ce sera Iso Abraham, du laboratoire Concept et dispositifs pour la photonique, du CNRS CNET à Bagneux, qui nous parlera de renforcement et inhibition de l'émission spontanée dans les micro-cavités à semi-conducteurs. Le 23 novembre, à 11h, ce sera Christian Brunel, du Centre de physique moléculaire optique hertzienne de Bordeaux, qui va nous parler d'optique non linéaire avec des molécules individuelles. Et enfin, le dernier mardi de novembre, ce sera Philippe Laurent, du Bureau national de métrologie, qui nous parlera de récents développements sur les horloges à atomes froids au BNM LPTF. Et les deux séminaires de décembre, je vous les indiquerai dans la prochaine séance ou la séance suivante. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle que dans la précédente séance, nous avons vu que si on part de deux condensats séparés dans l'espace, qu'on coupe les pièces qui les maintiennent et qu'on les laisse subir une expansion balistique et se recouvrir, nous avons vu qu'on observait des franges d'interférence extrêmement bien discernables dans la zone de recouvrement. Et que ces franges d'interférence étaient un accord quantitatif avec les prédictions théoriques qu'on pouvait faire d'un modèle simple basé sur l'équation de Gross-Pitaïsky, ce qui montre bien qu'il y a bien un phénomène d'interférence entre deux fonctions d'onde macroscopiques associées aux deux condensats. Le calcul qui a été fait il y a deux semaines, supposait que l'état initial des deux condensats était un produit d'état cohérent avec une phase relative bien définie entre les deux condensats. La question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette phase relative ? Si on imagine, par exemple, qu'on prend deux condensats qui ont été créés de manière complètement indépendante et qu'on les rapproche l'un de l'autre, il n'y a aucune raison, a priori, pour qu'ils aient une phase relative bien définie l'un par rapport à l'autre. À ce moment-là, si on fait la moyenne de la position des figures d'interférence sur toutes ces phases relatives possibles, on doit observer zéro. Le fait qu'on n'observe pas zéro montre bien qu'il est bien apparu une phase relative, et c'est le problème que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est d'où vient cette phase relative. Comment elle apparaît. Donc, le cours d'aujourd'hui donc, est relatif au problème de l'émergence d'une phase relative. Et nous allons voir que cette phase relative apparaît sous l'effet des processus de détection. Je trouve qu'il s'agit là d'un problème très intéressant montrant l'importance en mécanique quantique du processus de mesure pour faire évoluer le système. Donc, je vais d'abord, si vous voulez bien, faire une introduction pour poser un peu le problème et préciser le modèle que nous allons utiliser. Je rappelle que deux condensats complètement indépendants n'ont pas en général une phase relative bien définie. Est-ce qu'on peut néanmoins observer des franges d'interférence dans la zone de recouvrement de ces deux condensats ? Ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure que les atomes sont détectés, dans une expérience donnée, dans une réalisation expérimentale donnée, une phase relative s'établit petit à petit, de sorte qu'au bout d'un certain temps, la figure d'interférence apparaît de manière claire. En d'autres termes, c'est le processus de détection lui-même qui fait apparaître la phase relative. Et si on recommence l'expérience, une réalisation expérimentale, il va s'établir une phase relative, en général, différente de la précédente, de sorte qu'on va observer des franges d'interférence, mais la position de ces franges d'interférence sera complètement différente, en général, de la première expérience, puis la troisième, puis la quatrième. Donc, à chaque réalisation expérimentale, va s'établir une phase relative, en général, différente. Alors, avant de commencer les calculs de correspondants, je crois qu'il n'est pas inutile de donner un peu l'idée physique qui est à la base de ce phénomène. Si nous partons de l'exemple le plus simple possible d'un état initial qui est un produit de deux états de Fock, chaque condensat comporte un nombre bien défini de particules, N1 et N2. Dans un tel état, évidemment, il n'y a pas de phase relative. La dispersion N1 moins N2 est parfaitement bien définie, puisque N1 et N2 sont parfaitement bien définis. Et comme je l'expliquais dans un cours précédent, la N1 moins N2, c'est la variable en quelque sorte conjuguée de la phase relative. Si N1 moins N2 est bien définie, la phase relative n'est pas du tout définie. Et c'est pour ça qu'en principe, on ne doit pas avoir de front d'interférence. Mais, quand on fait la première détection, l'atome qui est détecté dans la zone de recouvrement, on ne sait pas s'il vient du condensat 1 ou s'il vient du condensat 2. Il a une certaine amplitude de provenir du condensat 1, une certaine amplitude de provenir du condensat 2. Donc, après le premier processus de détection, N1 moins N2 qui était bien défini avant la détection devient moins bien défini, puisque le condensat 1 peut avoir perdu une particule ou le condensat 2 peut avoir perdu une particule. Donc, chaque détection fait apparaître une dispersion sur N1 moins N2 et cette dispersion va augmenter au fur et à mesure que les processus de détection se produisent. Et c'est cette augmentation de la dispersion sur N1 moins N2 qui va se traduire corrélativement par une diminution de la dispersion sur phi. Voilà un peu, si vous voulez, l'idée générale que nous allons essayer de développer. Alors, quelle va être la démarche suivie? Mais on va calculer à partir des postulats de la mécanique quantique, à partir de la théorie, de la mesure, la probabilité de détecter au cours d'une réalisation expérimentale donnée un premier atome en X1, puis un deuxième atome en X2, puis un troisième atome en XK, et ainsi de suite. On va calculer donc ces probabilités W. Alors il faut lire qu'on fait des calculs de probabilité en mécanique quantique que l'opérateur d'évolution agit sur enquête qui est ici, puis on va vers la gauche, donc il faut lire de la droite vers la gauche. WK, W de X1, X2, X3, XK moins 1, XK. Et une fois qu'on a cet objet, W, on va faire deux choses différentes. Ou bien on fait un calcul purement numérique. On fait une simulation numérique de type Monte Carlo basée sur ces probabilités. Et on tire la probabilité d'avoir X1, puis X2, puis X3, puis X4. On fait une simulation de l'expérience. Et on constate concrètement qu'au début, les points se répartissent complètement au hasard et qu'au fur et à mesure que le nombre de détections augmente, ils se groupent pour former des franges brillantes et des franges sombres. On voit apparaître donc concrètement la figure. On fait en quelque sorte, on fait une expérience, mais simulée numériquement. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On peut aussi, si on prend un état initial développé sur une base d'états cohérents, les états cohérents sont particulièrement commodes pour l'étude des processus dissipatifs et pour l'étude des processus de détection, et nous allons voir que dans ce cas-là, on peut obtenir une expression analytique de W. Et à ce moment-là, on peut non seulement faire des simulations, mais essayer aussi de comprendre concrètement, analytiquement, comment W, la distribution de la phase relative entre les deux condensats, partant d'une valeur qui est complètement plate, va petit à petit s'affiner puis devenir infiniment fine autour d'une valeur donnée, qui va dépendre de la réalisation expérimentale. Donc ça, c'est ce que je ferai la semaine prochaine, en même temps qu'une étude de l'effet du brouillage de phase lié aux interactions. Voilà donc ce que je compte faire. Et avant d'aller plus loin, il faut maintenant revenir peut-être un petit peu en arrière et rappeler la description d'un processus dissipatif en termes de saut quantique. Donc je voudrais consacrer un paragraphe entier à l'étude des processus dissipatifs et sauts quantiques. Alors, tout d'abord, quelques exemples de processus dissipatifs. Je crois que l'exemple le plus important pour la physique atomique, le plus simple, le prototype de processus dissipatif, c'est l'émission spontanée de photons par des atomes excités. Si on prend un atome excité, on sait que l'amplitude de trouver l'atome excité va décroître exponentiellement au cours du temps, avec une constante de temps qui est la durée d'irradiative radiative de l'état excité. Et c'est vraiment sur ce processus très simple, très fondamental, qu'on peut introduire la notion d'équation pilote, la notion de saut quantique. C'est un modèle extrêmement fécond pour étudier les processus dissipatifs. C'est pas le seul, bien sûr. Un autre exemple, si on part d'un état, un atome dans l'état fondamental, et on envoie dessus un rayonnement de largeur spectrale large, important, et cet atome absorbe un photon et est ionisé, et disparaît de l'état fondamental avec une certaine probabilité par unité de temps, qui est la probabilité de photo-ionisation. C'est en étudiant un processus de ce type qu'on peut calculer les signaux donnés par un photodétecteur. Troisième exemple, aujourd'hui, qui nous intéresse, on a un condensat, on l'éclaire avec une lumière de détection pour en faire l'image, et chaque atome du condensat a une certaine probabilité par unité de temps d'être excité par la lumière sombre, d'être disparaître de l'état dans lequel les atomes sont condensés, d'être porté dans un autre état qui en général n'est pas piégeant, à partir de lequel il quitte très rapidement le condensat. Donc il disparaît du condensat avec une certaine constante de temps par unité, certaine constante par unité de temps. De manière générale, la description d'un processus dissipatif est simple quand il existe deux échelles de temps bien distinctes dans le problème. Le temps de relaxation, TR, qui décrit l'amortissement des grandeurs physiques, et le temps de corrélation, TOC, qui caractérise les fluctuations des processus microscopiques responsables des processus dissipatifs. Par exemple, pour l'émission spontanée, le temps de relaxation, c'est la durée de vie de l'état excité, et le temps de corrélation, c'est le temps de corrélation des fluctuations du vide, le champ du vide qui agit sur l'atome excité. Pour la photo-ionisation, on peut aussi de même distinguer le temps de photo-ionisation et puis des temps de corrélation qui sont liés à la largeur du continuum auquel l'atome est couplé par le rayonnement incident, et ainsi de suite. Et quand il y a une différence très nette entre les deux échelles de temps, si TR est beaucoup plus grand que TOC, à ce moment-là, on peut faire des approximations de type approximation de Markov, approximation de mémoire courte, et à ce moment-là, on peut obtenir des descriptions relativement simples du processus dissipatif. La plus connue, c'est l'équation pilote. La description par équation pilote, c'est la plus courante. La condition TR très grande dans TOC permet en général de faire une approximation de Markov et d'obtenir pour l'évolution de l'opérateur densité réduit qui décrit le petit système qui subit la relaxation, une équation différentielle qui exprime que la vitesse de variation de ρ à l'instant T ne dépend que de ρ au même instant. C'est ce qu'on appelle l'équation pilote. L'équation de Bloch, l'équation de Bloch optique, il y a toute une série d'équations importantes de la physique atomique qui portent leur nom. J'ai donné ici un exemple simple, qui est l'exemple de l'oscillateur harmonique à une dimension amortie, par couplage avec un réservoir, qui est donné dans la référence 1, complément B4, qui est étudiée très en détail, et l'équation pilote pour l'opérateur densité réduit de l'opérateur de l'oscillateur harmonique, c'est B sur dt de ρ, égale moins i oméga 0 B croix B ρ, moins gamma sur 2 B croix B rho plus rho B croix B plus gamma. Alors je m'excuse dans les notes, il y a un lapsus, c'est pas B croix rho B croix, c'est B rho B croix. Où la première ligne, c'est tout simplement l'évolution hamiltonienne libre due à l'hamiltonienne de l'oscillateur harmonique. Et la deuxième ligne décrit l'amortissement de l'oscillateur avec un taux gamma. Alors, on peut par exemple calculer B sur dt de rho n, l'élément diagonal de l'opérateur de densité dans l'état n, et on trouve une équation qui a une interprétation très simple. On trouve que la probabilité d'être dans l'état n décroît par suite des processus de dissipation vers les niveaux inférieurs avec un taux n gamma, et puis est alimentée à partir du niveau supérieur rho n plus 1 avec un taux n plus 1 gamma. Des équations de ce type ayant cette forme-là, ayant la forme d'un commutateur, d'un anticommutateur et d'un terme où ρ est en sandwich entre deux opérateurs adjoints l'un de l'autre, c'est ce qu'on appelle aussi souvent une forme de Lindblad. Donc cette forme de l'équation pilote est extrêmement fréquente en physique atomique et on l'utilisera par exemple tout à l'heure pour le processus de dissipation d'un condensat. Alors, pendant très longtemps, ça a été la seule description, une des seules descriptions qu'on a utilisées, et l'équation pilote décrit l'évolution moyenne d'un ensemble statistique de systèmes qui sont tous préparés dans les mêmes conditions initiales. Et on a donc l'évolution, un comportement moyen d'un ensemble statistique de systèmes. Et puis, au milieu des années 80, sont apparues toute une série d'expériences spectaculaires où les physiciens ont pu observer le comportement d'un seul atome, d'un seul ion piégé, par exemple, dans un piège de Penning, dans un piège de Paul, éclairé par des faisceaux laser. Et cet ion, je rappelle ici très brièvement l'expérience, c'est un état fondamental. J'ai un état excité E1, un état excité E2 de très longue durée de vie. Donc cet état donc, a une très courte durée de vie, une très grande largeur. Celui-ci a une très très longue durée de vie. Et cet atome est excité par deux faisceaux laser de fréquence ω1 et ω2. Alors, cette transition est très forte. Elle a une force oscillatoire très importante. Et la plupart du temps, l'atome oscille entre G et 1 et émet des photons de fluorescence à la fréquence correspondant à la transition E1G. Et puis, de temps en temps, il absorbe un photon ω2. Il monte dans l'état E2. Et dans l'état E2, il reste 30 secondes. Parce que la durée de vie de l'état E2, qui est métastable, est de 30 secondes. Il est en quelque sorte mis sur une étagère. Et pendant ce temps-là, la fluorescence à cette fréquence-là s'arrête, puisque l'atome est ici. Et puis, l'atome, au bout d'un certain temps, va retomber là-dedans, et la fluorescence va recommencer. Et si on regarde avec un microscope la lumière émise par l'atome unique qui est piégé, on voit des comportements erratiques, on voit des sauts quantiques. La lumière de fluorescence à la fréquence E1G est là, on voit de la lumière brillante, et puis tout à coup, ça s'éteint, puis ça s'allume, puis ça s'éteint de manière complètement aléatoire. Donc, pour la première fois, on a observé concrètement des sauts quantiques de l'atome entre les niveaux G et E2, sauts quantiques détectés par la fluorescence sur G1, qui s'arrête ou réapparaît. Alors, cette expérience a soulevé un immense intérêt et a stimulé, disons, toute une série d'approches théoriques permettant de décrire non plus l'évolution d'un ensemble statistique de systèmes décrit par un opérateur d'entité, mais de décrire l'évolution temporelle d'un système individuel. Et on s'est rendu compte, et on a pu démontrer de manière rigoureuse, que la description par équation pilote était strictement équivalente à une description différente, où on prend un seul système, et où on décrit son évolution comme formée d'une suite de périodes d'évolution cohérente, entre guillemets, qu'on peut considérées comme cohérentes parce qu'elles sont régies par un Hamiltonien qui en général n'est pas hermétique, qui est effectif. Et puis ces périodes d'évolution cohérentes sont séparées par des sauts quantiques aléatoires, se produisant des instants aléatoires où la fonction d'onde subit un changement brusque. Elle change brusquement, elle réévolue de manière cohérente, puis elle change brusquement, elle évolue de manière cohérente et elle change brusquement. Et à ce moment-là, si on prend chacune de ces histoires individuelles, qui est stochastique, où l'évolution du système est décrite par une fonction d'onde et non pas par un opérateur de densité, et qu'en moyenne, cet ensemble de descriptions stochastiques individuelles sur des fonctions d'onde, on retrouve des résultats identiques à ceux donnés par la matrice densité, par l'opérateur de densité. Ça porte plusieurs noms, fonction délai, wave function Monte Carlo, stochastic wave function, quantum trajectories, il y a toute une série de références que j'ai données de 2 à 7, c'est un domaine de recherche qui a été extrêmement actif à partir du milieu des années 80 jusqu'à maintenant. Je pense qu'il est utile que je vous donne un exemple concret, très simple, d'une telle approche, qui est la cascade radiative de l'atome habillé. Parce qu'il permet de bien comprendre la signification physique d'une telle approche. Supposez que j'ai un atome à deux niveaux, A et B, B en haut, A en bas, séparé par une fréquence H bar oméga, et interagissant avec un champ laser d'une cavité monomone, dont les états sont décrits par N, le nombre de photons laser. Si je prends le système en l'absence d'interaction, il est caractérisé par deux nombres quantiques, un pour l'atome A et B, et un pour le champ laser qui est N, le nombre de photons. Et à ce moment-là, si oméga L, la fréquence du laser, est très proche de oméga A, ces états non couplés, non interagissants, se groupent en multiplicité 2 par 2. Par exemple, l'atome AN plus 1, atome dans l'état A fondamental avec N plus 1 photon laser, est couplé et est très proche de l'état BN, atome dans l'état excité B, avec un photon laser de moins. l'écart d'énergie entre ces deux états, c'est le désaccord oméga L moins oméga A entre le laser et la fréquence atomique. Donc ces deux états sont très proches l'un de l'autre. Si j'enlève un photon laser à là, un photon laser là, j'ai les états AN et BL-1 séparés de H bar oméga L, puis AN-1, BL-2 séparés encore de H bar oméga L, et ainsi de suite. J'ai donc toute une infinité de multiplicités 2 par 2, et AN, et N-1, et N-2, de deux états très proches l'un de l'autre, chaque multiplicité étant séparée de la multiplicité adjacente par une énergie H bar oméga L. Si je néglige toujours l'émission spontanée, mais que je mets maintenant l'interaction atome laser, les états sont couplés deux par deux. En effet, l'atome dans l'état A, en présence de N plus 1 photon laser, peut absorber un photon. Donc N diminue d'une unité, je passe de N plus 1 à N, et l'atome passe de A à B. Donc ces deux états sont couplés par la multitude d'interactions, atome laser, et l'élément de matrice, H bar oméga 1 sur 2, caractérise en quelque sorte la fréquence de Rabi, l'oscillation de Rabi entre les deux états. On sait que dans un champ monochromatique, un atome effectue une oscillation de Rabi entre l'état excité et l'état fondamental avec la fréquence oméga 1 qui est la fréquence de Rabi. Le passage de AN plus 1 à BN, c'est un processus d'absorption. Le passage de BN à AN plus 1, c'est un processus d'émission réduite. Et s'il n'y avait pas d'émission spontanée, le système oscillerait entre les deux états indéfiniment à la fréquence de Rabi. Mais j'ai également l'émission spontanée qui se produit à des instants aléatoires et qui se produit très rapidement parce que les transitoires associés au processus d'émission spontanée durent un temps qui est de l'ordre du temps de corrélation des fluctuations du vide, extrêmement court. Et pendant un processus d'émission spontanée, l'atome passe de B à A et les photons laser restent spectateurs parce que pendant le temps de corrélation des fluctuations du vide, le couplage atome laser n'a pas le temps de se produire. Donc une transition d'émission spontanée dans ce diagramme, c'est une transition de B vers A avec N restant constant. Donc cette transition, cette transition, cette transition. Alors on voit maintenant comment on peut donner de l'évolution du système une nouvelle image après une certaine émission spontanée qui projette l'atome dans l'état AN plus 1. L'atome entre dans la multiplicité EN et il rentre dans l'état AN plus 1. Donc la cascade radiative est décrite de la manière suivante. L'atome entre dans l'état AN plus 1 de la multiplicité EN à un certain instant T que je vais prendre pour origine, après une émission spontanée qui le projette dans l'état AN plus 1. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va évoluer pendant un certain temps dans cette multiplicité AN plus 1 BN sous l'effet des processus d'absorption et d'émission induite. Et c'est ça qu'on appelle une période d'évolution cohérente. Et son évolution va être décrite par l'opérateur d'évolution et puissance moins IHT sur H bar projeté dans la multiplicité EN. PN, c'est le projecteur sur EN. Alors, on sait en mécanique quantique trouver des expressions simples de l'opérateur densité réduite dans une multiplicité donnée en utilisant le formalisme de la résolvante. Et on trouve que cette évolution dans cette multiplicité 2 par 2 peut être décrite par un hamiltonien effectif qui va plus être hermétique parce que la probabilité de rester dans EN n'est pas 1. Comme l'état excité de BN est instable, au bout d'un certain temps, l'atome va quitter la multiplicité, donc la norme n'est pas conservée à l'intérieur de EN, et donc l'hamiltonien ne doit pas être hermétique. Et effectivement, si on écrit l'hamiltonien effectif dans cette multiplicité, on peut montrer très simplement qu'il a cette structure. Les éléments non diagonaux, ça pour l'état AN plus 1, c'est oméga L moins oméga. En effet, l'état AN plus 1 a une énergie un photon plus que l'état BN, donc plus oméga L, et puis on passe de, et par contre il est dans l'état, il n'est pas dans l'état B, donc moins oméga, et c'est un état stable, l'état fondamental. Par contre l'état BN, il est instable à cause de l'émission spontanée, donc son énergie comporte une partie imaginaire, moins I gamma sur 2, qui va décrire la décroissance exponentielle de l'amplitude dans l'état BN. Quant aux éléments non diagonaux ici, oméga 1 sur 2, oméga 1 sur 2, ils décrivent simplement le couplage d'absorption et d'émission induite entre l'état AN plus 1 et l'état BN. Donc, l'atome va évoluer entre les deux états sous l'effet de cet hamiltonien effectif. Puis, chaque fois qu'il passe dans l'état BN, dans sa précession de Rabi, l'état BN étant instable, il a une certaine probabilité de quitter la multiplicité à partir de cet état. Et donc, la probabilité qu'il quitte la multiplicité et de N à l'instant T, entre T et T plus DT, c'est-à-dire la probabilité qu'il quitte, qu'il émette spontanément un photon, c'est très simple à écrire, K de T DT, j'ai oublié DT ici dans les notes, il faut rajouter, On part de l'état A n plus 1, à l'instant t égale 0, on évolue sous l'effet de l'Hamiltonien effectif, les puissances moins liées à H effectif t sur H bar. L'amplitude d'être dans l'état Bn, c'est cet élément de matrice, la probabilité, c'est le carré, et la probabilité qu'il a de quitter cette multiplicité, c'est gamma fois la probabilité d'être dans l'état Bn. Donc la probabilité de quitter, d'effectuer un saut quantique vers An par émission spontanée à partir de Bn, c'est donné par cette formule, où K de t, ce qu'on peut appeler, c'est la fonction délai. C'est la fonction délai qui exprime le délai entre l'entrée dans la multiplicité Bn et l'instant où on en sort. Puis quand il sort de la multiplicité Bn, de la multiplicité N, avec cette probabilité K de t dt, on peut tirer au sort, moyennant cette loi de probabilité K de t, l'instant où il va quitter la multiplicité N, et quand il la quitte, il va aller dans la multiplicité inférieure et va rentrer dans l'état AN. Et puis de nouveau, il va évoluer dans la multiplicité EN-1 sous l'effet de la multiplicité effectif, jusqu'au prochain saut quantique, il va lui faire quitter cette multiplicité E de N-1, à partir de B de N-1, il va aller à AN-1 qui appartient à EN-2. Et ainsi de suite. Donc on voit que dans la cascade radiative de l'atome habillé, que je reprends ce dessin ici, l'évolution de l'atome, c'est une suite de sauts quantiques qui l'amène là, une évolution cohérente, un saut quantique qui l'amène là, une évolution cohérente, un saut quantique qui l'amène là, une évolution cohérente. Et la fonction K de T me donne la répartition des intervalles de temps entre deux sauts quantiques successifs, entre deux émissions spontanées successives. Donc si on connaît la fonction K de T, on peut simuler la suite aléatoire de processus d'émission et on peut calculer toutes les propriétés statistiques de la suite des photons de fluorescence émises par l'atome. On peut évidemment généraliser une telle approche à des situations plus complexes, des atomes à plusieurs niveaux, comme celui-ci, et étudier ce phénomène qu'on appelle la fluorescence intermittente. On peut aussi étudier des situations où l'atome a deux niveaux en bas et un niveau en haut, et étudier de cette manière ce qu'on appelle les résonances noires ou le piégeage cohérent de population. Il y a toute une série de problèmes qui peuvent être étudiés de cette manière. Donc, nous voyons qu'il est possible de suivre l'évolution d'un seul système et de la décrire donc de manière stochastique par une suite d'évolutions cohérentes et de sauts quantiques se produisant à des instants aléatoires mais dont on connaît les probabilités. Alors c'est cette idée générale que nous allons maintenant essayer d'appliquer, au problème des deux condensats et pour calculer la probabilité d'une séquence de processus de détection. D'abord, le modèle que nous allons choisir. Je considère deux condensats indépendants et je suppose pour simplifier, ce n'est pas essentiel, je suppose pour simplifier que les états Psi1 et Psi2 dans lesquels les atomes sont condensés sont approximés par deux ondes planes de vecteurs d'onde K1 et K2 opposés. C'est supposé déjà que les paquets d'ondes se sont étalés et je m'en place uniquement dans la zone de recouvrement que je peux définir en vecteur d'angle local K1 et K2 opposés. Pour simplifier, on néglige l'effet de la gravité qui tombe. On peut dire se placer dans un référentiel uniformément accéléré où les atomes sont immobiles le long de l'axe Z. Donc la chute n'est pas essentielle. Et je suppose que le processus qui détecte les atomes qui va me permettre de les imager, c'est un processus dissipatif qui donne aux atomes du condensat 1 et du condensat 2 une durée définie. Il les fait disparaître avec une probabilité par unité de temps, la même pour les deux condensats, et que j'appelle gamma. Je suppose le détecteur parfait. Et dans cette première étape, aujourd'hui, et une partie de la semaine prochaine, je néglige toute interaction entre atomes. Je prends les atomes sans interaction pour serrer les problèmes. Et ensuite, on introduira les interactions. Voilà. Alors, pour le signal de détection, on a besoin de l'opérateur champ. Alors, je m'excuse, il y a une interversion dans les notes, le T136 et en fait T135 est réciproquement. Donc, le transparent suivant, c'est celui-ci, opérateur champ. Alors, comme on sait toujours, l'opérateur change, c'est la fonction nombre de l'état 1 que multiplie l'opérateur de destruction d'une particule dans cet état, plus la même chose pour l'état 2, donc c'est A1 et puissance IKX plus A2 et puissance IK2X, où A1 et A2 sont les opérateurs de destruction d'une particule dans l'état 1 et dans l'état 2. Et comme K1 égale K2 égale moins K2 égale K, donc K1 c'est moins K, et K2 c'est plus K, donc en mettant facteur la puissance moins IKX, c'est et puissance moins IKX A1 plus A2 et puissance 2 IKX. Quant à psi croix de X, c'est le complexe conjugué, le hermétique, c'est et puissance IKX, A1 croix plus A2 croix puissance moins 2 IKX. Alors nous allons voir dans toutes les expressions qui vont suivre, à chaque fois qu'il y a un psi de X, il y a un psi croix de X qui est associé, de sorte qu'à chaque fois qu'il y a une puissance IKX ici, il y aura la puissance moins IKX, donc je ne vais pas m'encombrer de ces deux facteurs, et je les enlève. Ils disparaissent quand même dans les calculs, chaque psi de X est associé à un psi croix de X, et je peux donc écrire psi de X égale A1 plus A2 puissance 2 IKX, et psi croix de X égale A1 croix plus A2 croix puissance moins 2 IKX. Alors maintenant, je sais par ailleurs que la probabilité de détecter un atome au point X à l'instant T, et pendant un temps dt dans l'intervalle de X, c'est la valeur moyenne dans l'état du système de psi croix de X, c'est la probabilité que la particule soit au point X, psi croix de X, psi de X, dt. Donc c'est proportionnel à P de X égale N, une constante de normalisation, la valeur moyenne de psi croix de X, psi de X. Si je remplace psi croix de X et psi de X par leur expression, ici, je vois apparaître la valeur moyenne dans l'état considéré de A1 croix plus A2 croix puissance moins 2 IKX plus facteur de A1 plus A2 puissance 2 IKX. Donc il y a des termes indépendants de X, ce terme-là et ce terme-là, et puis il y a des termes en épuissance 2 IKX et des termes en épuissance moins 2 IKX. Je m'aperçois donc qu'en général, la probabilité de détecter un atome au point X est modulée spatialement, fonction de X, avec une périodicité spatiale qui est P sur K. L'interférence, donc, c'est P sur K. Je vais le mettre ici. Alors, calculons la constante de normalisation N. Si je prends la moyenne spatiale du signal précédent, alors, en toute rigueur, il faudrait que je prenne des conditions aux limites périodiques dans un certain volume et que j'introduise V1 sur L puissance 3,5. Je ne le fais pas pour simplifier un peu les notations. À la fin, il y a L qui disparaît des résultats physiques, donc vous me faites confiance, je n'ai pas besoin de mettre les L ici. Donc la probabilité P de X moyennée sur une période du signal, c'est P de X, dx, dt, c'est N. Alors les termes en épuissance IKX, 2 IKX et les termes en épuissance moins 2 IKX disparaissent. Il me reste les termes en A1 croix A1 et A2 croix A2, qui sont la densité ρ1 de X du premier condensat, la densité ρ2 de X du deuxième condensat, dx, dt. Et d'après l'hypothèse que j'ai faite plus haut, que les atomes disparaissent par le processus de détection avec un taux gamma par unité de temps, on s'aperçoit à ce moment-là que N est égal à gamma. En toute rigueur, il y a aussi 1 sur L cube, mais je ne mets pas parce que ça s'en va à la fin du calcul. Je vais encore un peu plus loin pour simplifier les expressions. Je vais prendre comme unité de longueur lambda, c'est-à-dire que je vais tout exprimer les longueurs en unité réduite de X sur lambda. Je prends donc lambda égale 1. Si je prends lambda égale 1, j'ai K égale pi, K égale pi, et à ce moment-là, et puissance 2 IKX, comme K égale pi, je peux écrire puissance 2 IPX, et j'aurais écrit psi de X égale 1 plus A2 puissance IPX, psi croix de X égale 1 croix plus A2 croix puissance moins IPX, ou psi de X égale 2PX. Donc, je prends lambda égale 1, donc j'ai K égale pi, et j'ai psi de X égale 2PX. Autrement dit, à chaque valeur de x comprise entre 0 et 1, je ne peux me contenter de faire varier x entre 0 et 1 puisque le signal est périodique, est associé une phase, phi de x, qui varie entre 0 et 2 pi, et au lieu de parler de x, je peux parler de phi, au lieu de parler de phi, je peux parler de x. Ça revient au même de parler de phi ou de parler de x. Alors, pour appliquer le formalisme que j'ai donné tout à l'heure, quel est le bête maintenant l'hamiltonien effectif dans une multiplicité correspondant à un nombre bien défini d'atomes? Quel est l'hamiltonien effectif? D'abord, l'évolution libre d'un état de base, N1, N2, est de la forme exponentielle moins i n1 plus n2 oméga 0 t, où alpha oméga 0, l'énergie individuelle des états K1 et K2, supposée la même pour les deux condenseurs, et dans lequel sont condensés les deux les atomes. D'accord ? Je néglige ici des interactions. J'ai dit que je néglige des interactions. Donc, l'état dans lequel sont condensés les atomes, c'est un état fondamental d'un puits, et je suppose que cette énergie non perturbée est la même pour les deux condenseurs. Maintenant, le fait que les atomes disparaissent avec une certaine durée de vie, à cause du processus de détection, est décrit en introduisant dans les énergies des états N1 et N2 une partie imaginaire qui va décrire la décroissance de l'amplitude de probabilité due au processus de détection. L'état N1, N2, l'amplitude d'être dans l'état N1, N2 va décroître exponentiellement de la forme e puissance moins gamma N1 plus N2 t sur 2. J'ai oublié le 2 sur les notes, donc je vais ajouter ici, gamma t sur 2. De sorte que l'Hamiltonien effectif, avec le nombre total de particules, A1 croix A1 plus A2 croix A2, puisque je suppose que gamma est le même pour les deux condensats, donc les deux condensats ne sont pas discriminés par la durée de vie, alpha oméga 0, la partie réelle de l'énergie, moins i gamma sur 2 qui décrit la disparition avec un taux gamma d'atomes de chaque condensat. Voilà. Donc ça va être l'Hamiltonien effectif qui décrit l'évolution dans une multiplicité correspondant à un nombre total de particules données. Alors, encore un petit point de calcul. Ça, c'est très facile à faire. Si je prends maintenant l'opérateur A1 et que je le mets en sandwich entre e puissance moins ih effectif et e puissance plus ih effectif t sur h bar, un tel opérateur n'a d'élément de matrice qu'entre un état n1 et n1-1. Et en prenant l'élément de matrice d'un tel opérateur entre n1 et n1-1, on vérifie aisément que c'est les mêmes que l'élément de matrice de l'opérateur A1 entre n1 et n1-1 que multiplie e puissance moins i oméga 0 t et puissance moins gamma t sur 2. Donc mettre A1 en sandwich sur ces deux opérateurs, ça revient tout simplement à multiplier A1 par e puissance moins i oméga 0 t puissance moins gamma t sur 2. De même, en prenant l'adjoint de cette quantité, j'ai A1 croix en sandwich entre e puissance ih effectif t sur h bar et puissance moins ih effectif croix t sur h bar, c'est la même A1 croix que multiplie le complexe conjugué de ça, c'est e puissance i oméga 0 t et puissance moins gamma t sur 2. Voilà, c'est le modèle, et maintenant je vais construire pas à pas le signal. Alors nous allons procéder ici comme nous avons procédé pour un atome unique. Ici, nous remplaçons l'atome unique par un système unique. Et nous faisons une expérience unique, nous faisons une réalisation expérimentale et on essaie d'analyser cette réalisation expérimentale unique au moyen du formaline des périodes d'évolution cohérentes et des sauts quantiques introduits tout à l'heure pour un atome unique. Vous voyez, on fait ici une réalisation expérimentale unique. Alors, d'abord, de quoi on part ? On va partir d'un mélange statistique d'état qui avec des poids pi. Donc on part d'un opérateur densité rho qui est sigma i de pi qui i. Donc je vais faire le calcul pour chaque état qui du mélange. Je vais calculer tout jusqu'au niveau des probabilités pour qui et puis ensuite moyenner sur les qui. Donc je vais me limiter à la contribution d'un état qui du mélange statistique. Alors on part de qui à l'instant t égale 0. Puis le système évolue de 0 à l'instant t1. Et on suppose qu'entre 0 et T1, il n'y a pas eu de détection encore. Donc, il est resté dans la multiplicité donnée, et donc son évolution est une évolution décrite par, par H effectif, et donc, à l'instant T1, il est devenu E puissance moins IH effectif T1 sur H bar, qui ? Aucune détection n'a eu lieu. À l'instant T1, on suppose qu'une détection a lieu, et qu'elle a détecté l'atome au point X1. À ce moment-là, la probabilité de détecter un atome en x1 à l'instant t1 vaut p de x1 t1, c'est gamma fois la probabilité de trouver l'atome au point x1. C'est-à-dire l'élément de matrice entre qui de t1 et qui de t1 de l'opérateur psi croix de x1, psi de x1, qui est la densité de probabilité de trouver l'atome au point x1. Et qui de t1 c'est ici e puissance moins ih effectif t1 sur h bar, et le bras ici. Alors là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié e puissance H effectif croix. Parce que quand on prend l'adjoint, H effectif n'étant pas hermétique, il ne faut pas oublier de prendre le croix ici. Bien. Alors, on a détecté un photon à l'instant T1 au point X1. Quel est l'état du système immédiatement après la détection? Là, il y a eu un saut quantique. Et le saut quantique correspond, dans la Hamiltonienne d'interaction qui décrit la détection, à la disparition d'un atome au point X1. Donc, l'opérateur qui va apparaître ici, c'est l'opérateur annihilation d'un atome au point X1, puisque l'atome disparaît du condensat et est porté dans un autre état à partir duquel il va quitter le condensat. Donc, immédiatement après le saut quantique, l'atome est dans l'état qui de T1 plus epsilon, epsilon c'est un temps infiniment petit après la détection, qui est l'état avant la détection, qui de T1, qui multiplie psi croix psi de X1, qui arrache un atome au condensat au point X1. Alors cet état n'est pas normé. Si je veux le normer, il faut que je le divise par la racine carrée de T norme. Donc l'état normé après la détection, après ce quantique, c'est psi chapeau de X1 agissant sur psi de T1, divisé par racine carrée de cet état qui multiplie par le bras adjoint. Je vois apparaître ici la valeur moyenne dans l'état qui de T1 de psi croix psi 1 psi de X1 qui, d'après le transparent précédent, ce n'est rien d'autre que PX1T1 sur gamma. Donc, la racine carrée qui est là, ce n'est rien d'autre que racine de PX1T1 sur gamma, c'est-à-dire qui I de T1 plus epsilon normé, c'est racine de gamma sur P de X1T1, psi de X1 qui I de T1. Et qui est de T1, je rappelle que c'est puissance moins I H effectif T1 sur H bar, qui. Voilà donc l'état juste après le saut quantique. Puis ensuite, il va évoluer de manière cohérente. De T1 à T2. Et à l'instant T2 est supérieur à T1, il va être devenu, s'il n'y a pas eu de détection entre T1 et T2, il va être devenu qui de T2 égale E puissance moins IH effectif T2 moins T1 sur alpha, qui de T1 plus epsilon. D'accord? Ou qui est de T1 plus epsilon est donné par cette formule. Donc je suis parti de qui, j'ai évolué de manière cohérente, une détection qui me diminue le nombre d'atomes d'immunité, puis une évolution cohérente jusqu'à T2. Maintenant j'ai la deuxième détection à l'instant T2. Quelle est la probabilité de détecter un atome en X1T1 et un autre atome en X2T2? Cette probabilité, c'est la probabilité de détecter un atome en X1T1 que multiplie la probabilité conditionnelle ayant détecté un atome en X1T1 de détecter un atome en X2T2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette probabilité conditionnelle? Si j'ai détecté un atome en X1T1, je sais qu'à l'instant T2, l'état du système, c'est celui que j'ai calculé tout à l'heure, une évolution cohérente, un saut quantique, une évolution cohérente. Donc c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, qui de T2 est puissance moins IH effectif T2 moins T1 sur H bar, qui de T1 plus epsilon. Donc, si je sais détecter un atome en X1T1, à l'instant T2 c'est ça, et la probabilité de détecter un deuxième atome au point X2T2, c'est la valeur gamma fois la valeur moyenne dans cet état-là, de psi croix de X2, psi de X2. C'est-à-dire, en remplaçant qui de T2 par son expression, gamma qui de T1 plus epsilon, T puissance moins I affectif croix T2 moins T1 sur H bar, psi croix de X2, psi de X2, et puissance moins IH effectif T2 moins T1 sur H bar, qui de T1 plus epsilon. Et je remplace maintenant qui de T1 plus epsilon par son expression en fonction de qui, et j'obtiens cette expression que je ne vais pas lire, mais qui est écrite ici, qui est donc constituée de qui et puis d'un certain nombre d'hamiltoniens effectifs, d'évolution sous l'effet d'un hamiltonien effectif, et de psi de X1 pour la première détection, psi de X2 pour la deuxième détection. Et j'obtiens ici psi de X2T2, et si je multiplie par P de X1T1 pour avoir la probabilité P de X2T2 et X1T1, je m'aperçois que ceci s'en va, et la probabilité P de X2T2 virgule X1T1, ça sera gamma 2 tout le reste. Alors, on va un peu simplifier les formules. Je m'aperçois ici que les psi de X, ici, sont en sandwich entre E puissance moins IH effectif T1 sur H bar et puissance plus IH effectif T1 sur H bar, pas de croix ici, hein, c'est E puissance plus IH effectif T1 sur H bar. Donc, je peux simplifier ça. Et je vais introduire maintenant des opérateurs champ dépendant du temps, psi de x et de t, chapeau, égale psi de x entre e puissance moins ih effectif t sur h bar et e puissance plus ih effectif t sur h bar, et puis la relation est pointe. Et à ce moment-là, l'expression que j'avais tout à l'heure se simplifie un peu, l'écriture, et j'obtiens p de x de t de x int1 égale gamma 2, je pars de pi, j'ai un opérateur champ au point 1, au point x int1, une évolution e puissance ih effectif t2 sur h bar, psi croix de x de psi de x2, e puissance plus ih effectif croix t2 sur h bar, psi de x int1 qui. Voilà ma deuxième détection faite. Après cette deuxième détection, quel est l'état du système? Comme tout à l'heure, un saut quantique, je pars de l'état juste avant la deuxième détection, qui est psi de t2, je fais agir psi de x2 dessus, et je divise par la racine carrée de la norme de cet état. Et si vous regardez la norme, ce qu'il y a en bas, c'est tout simplement P de x de t2, conditionnellement x int1 sur gamma. Le numérateur, je pars de pi, une évolution cohérente, un saut quantique en x1, une évolution cohérente, un saut quantique en x2, divisé par racine de Px int1 sur gamma. Je prends le numérateur, le dénominateur, et j'obtiens donc pour qui de t2 plus epsilon, racine de gamma 2 sur p de x de t2 x int1, que je retrouve ici en voyant le produit de px int1 par px de t2 conditionnellement à x int1, et au numérateur, l'état initial, une évolution cohérente, un saut quantique, une évolution cohérente, un saut quantique. Et ainsi de suite. Alors maintenant que j'ai l'état du système après la deuxième détection, je le laisse évoluer jusqu'à l'instant t3, où il est devenu cet état. Et à ce moment-là, la troisième détection, P de x3t3, x2t2, x1t1, c'est la probabilité P de x1t1, x2t2, que multiplie la probabilité conditionnelle ayant détecté un atome en x1t1 et x2t2, donc détecté 1 en x3t3, laquelle probabilité conditionnelle, si j'ai fait ces deux détections, je suis dans cet état, et la probabilité de détecter un atome en x3t3, c'est la valeur moyenne dans cet état, x1t2, l'opérateur champ dépendant du temps psi de x de t2, et puissance moins ih effectif t3 sur h bar, psi de x3, psi croix de x3, et puis les opérateurs adjoints ici. Et ainsi de suite, je ne vais pas continuer, hein, la probabilité de détecter un atome en x1t1, un atome en x de t2, un atome en xkt-1, un atome en xktk, c'est gamma à la puissance k, je pars de pi, j'ai k-1 opérateur champ associé au k-1 première détection, et la dernière détection, j'ai psi croix xk, psi xk en sandwich entre e puissance ih effectif croix tk sur h bar et e puissance moins ih effectif tk sur h bar. Donc j'ai obtenu une expression explicite du signal de détection. Alors je peux encore la simplifier. Psi de xt, c'est, j'ai démontré tout à l'heure que c'était une puissance, c'est psi de x, c'est une superposition de A1 et A2. Et nous avons vu que A1 et A2 mis en sandwich entre les puissances moins ih effectif t sur h bar et les puissances ih effectif t sur h bar, c'était simplement la multiplication par les puissances moins ih oméga 0 t et puissance moins gamma t sur 2. Comme psi de x est une superposition de A1 et A2, et que l'évolution est la même pour A1 et A2, j'ai aussi psi de x et de t, c'est tout simplement psi de x que multiplie ce terme-là. Et psi croix de x et de t, c'est tout simplement psi croix de x que multiplie ce facteur-là. Il ne me reste plus que la dernière détection, qui était, vous rappelez, xktk, on avait le psi croix de xk, psi de xk, en sandwich entre deux opérateurs comme ça. À ce moment-là, un petit calcul très simple que je ne détaille pas ici, en injectant ici, entre les deux, les puissances moins ih effectif croix t sur h bar, et puissance plus ih effectif croix t sur h bar, et puissance moins ih effectif t sur h bar, et puissance plus ih effectif t sur h bar. Donc je vois réapparaître cette formule-là. Ici, je vois réapparaître cette formule-là. Et j'obtiens finalement que cette quantité-là, que j'appelle A, c'est tout simplement entre psi croix de x et de t et psi de x et de t, de et puissance ih effectif croix t sur h bar moins h effectif t sur h bar. Si je reviens maintenant à l'expression de h effectif, si je prends le son adjointe, je vois immédiatement que la différence des deux amidonées affectifs, c'est tout simplement le terme dissipatif, I gamma A1 croix 1 plus A2 croix 2, I gamma N, de sorte que tout ce terme-là, c'est tout simplement psi croix de X et de T, et puissance moins gamma l'opérateur N de T, et psi de X et de T. Et finalement, j'obtiens une formule très compacte pour le signal de détection. Le signal de détection, X1T1, X2T2, X4T-1, X4TK, c'est gamma K, une certaine fonction du temps et puissance moins gamma T1 plus T2 plus TK, et puis la valeur moyenne dans Pi, des K opérateurs champs, indépendants du temps, ici des K opérateurs champs adjoints, indépendants du temps, rangés dans l'ensemble, et au milieu, et puissance moins gamma, N chapeau, T sur H bar, et puissance moins gamma, N, TK. D'accord ? Voilà, donc j'ai fini, et j'ai obtenu donc après le calcul un peu pénible, mais sans aucune difficulté, qui généralise directement l'idée de la cascade radiative, j'ai obtenu le calcul de détection. Je signale que dans la plupart des articles sur ce sujet, ceci tient deux lignes. On dit on trouve le signal de détection donné par cette formule, ou dans certains cas par un appendice, mais en général, j'ai pensé que ça valait la peine de le désosser un petit peu et de vous montrer qu'il n'y avait rien de sorcier là-dessous. Donc maintenant j'ai l'expression du signal de détection. Je vais vous montrer maintenant des simulations Monte Carlo faites à partir de ce signal de détection. Alors ici, je vais décrire des travaux qui sont décrits dans les références 8, 9 et 10 de Jadanainen et de Yu, en 96, et de Wong, Colette et Van, également la même année. Donc, ces simulations pour but ce suivant, là on va prendre, pour concrètement pour l'état qui, on va prendre un état de Fock, n sur 2, n sur 2, il y a n atomes en tout, n sur 2 dans le condensat 1, n sur 2 dans le condensat 2. C'est vraiment un cas très, très pur. Et je vais donc simuler le processus de détection avec les probabilités données et vous montrer qu'on voit apparaître l'écran. Et la prochaine fois, donc le paragraphe 5 qui suivra, je prendrai donc des calculs plus analytiques utilisant les simulations de Monte Carlo et permettant de comprendre l'évolution temporelle de la distribution de phase. Alors, si je reviens à l'expression du signal ici, si je prends pour l'état qui un état n sur 2, n sur 2, chacun de ces opérateurs diminue n d'une unité. Donc si j'ai un état où le nombre total de particules est n ici, comme j'ai k opérateurs de destruction, l'état que je vais obtenir ici va être un état à n moins k particules, bien défini. Donc et puissance moins gamma, l'opérateur n agissant là-dessus, je pourrais remplacer n chapeau par n moins k. Et remplacer cet opérateur par un nombre, puisqu'il agira à ce moment-là sur un état où le nombre de particules est bien défini. Donc j'ai une forme plus commode du signal, qui est donné par ceci, et maintenant j'ai plus puissance moins gamma n t ici, mais j'ai puissance moins gamma n moins k t k, donc ceci est un nombre maintenant. Et je vois apparaître donc cette fonction de corrélation, d'ordre supérieur, et puis cette fonction dépendant du temps. Et si je m'intéresse à la dépendance purement temporelle du signal, si j'attends un temps suffisamment long pour que les quatre premiers atomes aient été certainement détectés, et si je ne m'intéresse pas aux instants de détection, simplement à leur position. Il faut que j'intègre sur T1, sur T2, sur T3, sur TK, avec la condition TK supérieur à TK-1, supérieur à TK-2, supérieur à T2, supérieur à T1. Donc, si je m'intéresse à la dépendance purement spatiale du signal, au bout d'un temps suffisamment long, j'obtiens un nouveau signal, Q de XK, X1, qui est l'intégrale sur T1, T2, TK, avec cette condition-là, de P de XK, TK, X1, T1, et donc j'ai intégré cette fonction-là. Alors là, je vous fais grâce du calcul, qui n'a aucune difficulté, que j'ai quand même donné dans les notes ici, cette intégrale sur T1, T2, TK ordonnée de cette exponentielle se fait de proche en proche et on trouve qu'elle vaut tout simplement factoriel n moins k sur factoriel n, le tout sur gamma à la puissance k. Et quand je reporte cette valeur dans l'expression de Q, j'obtiens que Q de xk, xk moins 1, x2, x1, c'est un nombre n moins k factoriel sur factoriel n que multiplie la fonction de corrélation d'ordre k. psi de x1, psi de x2, psi de x4, psi cross de x4, psi cross de x2, psi cross de x1. Et je vois apparaître ici concrètement les fonctions de corrélation que j'ai étudiées dans le cours 2, dont je vois ici apparaître un nouveau sens physique. Ces fonctions de corrélation, donc finalement la probabilité de détecter un atome en x1, un atome en x2, un atome en x3, un atome en x4. Au facteur factoriel n-1 sur factoriel n près. Bien. Alors maintenant, on va faire les simulations. Alors, première détection, k égale 1, donc j'ai factoriel n-1 sur factoriel n, psi croix de x1, psi de x1, entre n sur 2, n sur 2, n sur 2, n sur 2. Maintenant, psi croix de x1, psi de x1, c'est a1 croix 1, plus a2 croix 2, plus a1 croix 2, puissance 2, i pi x1, plus a2 croix 1, et puissance 2, i pi x1. Je vais faire un sandwich entre n sur 2, n sur 2. Les termes carrés ici vont me donner n sur 2 plus n sur 2, ça fait n. Et les termes rectangles ici, a2 diminue ce nombre d'une unité, et a1 croix augmente cet nombre d'unités, cet état est orthogonal à celui-là, c'est égal à 0. Et je vois que la première détection, q de x1, c'est uniquement le premier terme, qui est 1 sur n, ça vaut 1 sur n qui multiplie n, c'est 1. Autrement dit, la première détection est uniforme et ne dépend pas du x1. J'obtiens une probabilité uniforme égale à 1 entre 0 et 1, normée bien sûr. Donc, vous voyez bien, on trouve bien que la probabilité, quand on a un état de fork au début, la probabilité de détecter un atome au point x1 ne dépend pas du x1. Bon, deuxième détection. Après la première détection, en x1, supposons que la première détection ait lieu en x1. La première détection provient de système dans l'état psi de x1, n sur 2, n sur 2. Dans un état proportionnel à bêta 1, qui est psi de x1, n sur 2, n sur 2. Psi de x1, c'est a1 plus a2 puissance 2, c'est pi x1. 1 agissant là-dessus, ça me donne racine de n sur 2 moins 1, n2. A2 agissant là-dessus, ça me donne n sur 2 moins 1. Et je vois qu'après la première détection, je suis dans un état qui est une superposition linéaire de n sur 2 moins 1, n2 et de n1, n2 moins 1. N sur 2 moins 1. Je vois que le premier atome détecté peut venir soit de 1, soit de 2, et que donc l'état final du système des deux condensats n'est plus un état produit, c'est un état qui présente des corrélations quantiques, et la différence n moins n2 n'est plus bien définie. En passant, si on calcule la norme de cet état, on trouve que c'est égal à n. Donc, alors que dans l'état initial, n1 moins n2 est parfaitement défini, après la première détection, ce n'est plus le cas. Et vous allez voir que ceci a tout de suite une conséquence, c'est que si je prends maintenant la deuxième détection, la probabilité conditionnelle P de Q de X de X1, qui est la probabilité conditionnelle de détecter le deuxième atome en X2, sachant qu'on a détecté le premier en X1, qui est le rapport de Q de X de X1 divisé par Q de X1, est donné par cette expression, 1 sur n, n-1, zeta 1, a1 croix a2, plus a2 croix a2, zeta 1, plus 1 sur n-1, l'élément de matrice dans z1 de a1 croix a2 puissance 2 i pi x2 plus complexe conjugué. Alors, le terme carré, est quelque très simple, est égal à 1. Le terme en a1 croix a2 et a2 croix a1, c'est l'élément de matrice de a1 croix a2 entre l'état zeta 1 qui est ici et le bras associé à l'état zeta 1. Alors, on voit que a1 croix a2, a2 diminue le n2 d'une unité, donc si je pars de celui-là, je vais avoir n2 sur 2 moins 2 qui n'existe pas du tout là, donc ça ne peut pas marcher. Le seul élément de matrice non nul de a1 croix a2, c'est entre cet état-là et cet état-là. Et il vaut 1 sur n moins 1, n2 sur 4, et puissance 2i pi x2 moins x1 plus complexe conjugué. Et le complexe conjugué va me faire apparaître le cosinus avec un facteur 2, et j'obtiens finalement pour ce terme rectangle là, n sur 2 n moins 1 cosinus de 2 pi x2 moins x1. Si n est très grand devant l'unité, je peux l'écrire 1 demi de cosinus de 2 pi x2 moins x1. Et je m'aperçois donc que la probabilité conditionnelle de détecter un atome en x2 ayant détecté un atome en x1 est donné par une formule très simple qui est 1 plus 1 demi cosinus de pi x2 moins x1. Formule que je donne ici, vous voyez que c'est un arc de sinusoïde d'amplitude 1 demi maximum en x2 égale x1. Et on voit donc que, alors que Q de X1 est uniforme, Q de X2 conditionnement à X1 n'est plus uniforme, présente des franges de visibilité 1/2, on appelle visibilité l'amplitude de la sinusoïde divisée par l'amplitude de la valeur moyenne. On a donc des franges de visibilité 1/2 et qui sont centrées sur X2 et à X1. Donc si on a détecté un atome en X1, la probabilité de détecter un atome en X2 est maximum quand X2 est égal à X1. Donc la première détection influence directement la deuxième détection. Et on peut donc utiliser cette loi pour tirer au sort. La première loi est uniforme, donc on peut tirer au sort un nombre quelconque compris entre 0 et 1 qui va me donner X1. Et entre X1, je peux utiliser maintenant cette loi pour calculer la probabilité de tirer X2. Et je tire X2. Et on continue, ainsi de suite. Alors, le calcul est... Je donne juste le principe. Hein. Après la deuxième détection, l'état c'est proportionnel, zeta 2 qui est n agissant sur n sur 2, n sur 2, la destruction en X1 et la destruction en X2. Et le cas et la norme est ceci. Et la probabilité de détecter un atome en X3, sachant qu'on a détecté un X1 et un X2, c'est la probabilité de détecter en X1, X2, X3 divisé par Q de X2, X1. Et c'est donné donc par n-3 factoriel sur factoriel n, la moyenne dans zeta 2, l'état après la deuxième détection, toujours de l'opérateur 1 terme carré et 1 terme restant, on voit par rémanence et puissance 2i pi x3 et puissance moins 2i pi x3. Alors, le terme carré en a1 croix 1 plus a2 croix 2, on calcule facilement et on trouve qu'il est égal à 1. Et puis, le terme qui suit ici, il va avoir un terme indépendant de x3 et un terme qui dépend de x3 qui va être un cosinus de pi x3 et un sinus de pi x3. Et les autres termes, les coefficients donc du terme constant et du terme en cosinus de pi x3 et sinus de pi x3 vont être des fonctions de x1 et de x2. Là maintenant, le calcul est beaucoup plus difficile analytiquement, je ne vais pas le faire. Je dis simplement qu'on va donc trouver, après la deuxième détection, 1 plus une certaine amplitude A de x2, x1, que multiplie cosinus de 2pi x3 moins une phase phi de x2 et x1. Et ainsi de suite. Et après la k moins une détection, la probabilité d'obtenir la kème détection en xk, ça va être 1 plus une certaine amplitude qui dépend de x1 et xk moins 1, cosinus de 2pi xk moins une phase qui dépend de x1 et xk moins 1. Alors, comme j'ai pris un état initial qui est un état de fork, j'ai pu faire le calcul analytique simplement pour la deuxième détection. Pour la kème détection, ça devient un peu compliqué. Et il vaut bien mieux faire des calculs numériques. Et voilà la procédure de la simulation. Donc, on tire au sort x1 et q est parti entre 0 et 1. On calcule q de x2, x1, qui est cette forme-là, avec a de x1 égale 1/2 et phi de x1 égale 2 pi x1. On tire au sort x2 suivant cette loi. Puis, on calcule q de x3, x2, x1 égale 1 plus a x2, x1 cosinus de pi x3 moins phi de x2, x1. Alors, plutôt que de calculer analytiquement ces deux quantités, comme on connaît leur forme, comme on connaît la forme analytique, la forme mathématique de cette expression, on calcule numériquement cette valeur pour deux valeurs x'3 et x seconde 3 de x3, et de ces deux valeurs numériques, on tire les deux inconnus qui sont a et phi. D'accord ? Puis on calcule, on tire au sort x3, puis on calcule q de x4, x1, x2, x3, on tire au sort x4, et ainsi de suite. Alors, comment présente-t-on les résultats? Alors, donc la simulation donne les valeurs successives de x1, x2, x3, xk. Chaque fois, on tire au sort, et puis on tire au sort la suivante en fonction de la probabilité conditionnelle calculée à partir des premières valeurs trouvées. On divise l'intervalle 0, 1 en un grand nombre de petits intervalles, et puis on calcule le nombre de points qui tombent dans chacun de ces intervalles. Et on construit l'histogramme. D'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque étape de la simulation, nous avons vu qu'il y a deux quantités qui apparaissent, A et Phi. A qui va donner la visibilité de la sinusoïde qui va permettre de calculer le tirage au sort de la prochaine variable, de la prochaine détection, et la phase. Et on peut donc appeler A et Phi une visibilité conditionnelle et une phase conditionnelle, conditionnelle par rapport au cas moyen de première détection. D'accord ? Et on peut suivre au cours du temps comment la visibilité des franges va s'améliorer et comment la phase va évoluer. Bon, et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner les résultats de ces simulations, donc qui sont tirés du papier de Valls, Wong. Voilà, donc, l'intervalle 0,1 divisé en 50 parties, 10 000 atomes, 5 000 détections, ça va très vite sur ordinateur, et voilà l'histogramme. Et vous voyez que l'ensemble des points, donc pour x variant entre 0 et 1, peut apparaître une très belle sinusoïde. Ça, la courbe en très plein représente le fit des points expérimentaux, des points résultant de la simulation, par une forme de la forme 1 plus a cosinus de pi phi, et on trouve que a est très voisin de 1. Donc on trouve qu'au bout de 5 000 détections, la sinusoïde qui permet de calculer la probabilité de la détection suivante est devenue pratiquement une sinusoïde de visibilité 1, donc on a tout ce passe comme si on avait vraiment des franges d'interférence parfaitement bien décrites. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut regarder comment la visibilité conditionnelle et la phase conditionnelle varient. Alors, j'oublie de dire que si on refait une autre simulation partant de 0 à 5000, on va obtenir une autre sinusoïde qui, en général, centrée de manière différente. Voilà, d'ailleurs on peut voir ça clairement. Ici il y a deux simulations différentes, A et B, et ce qu'on porte ici, c'est la phase conditionnelle qui apparaît dans 1 plus cosinus A plus A cosinus de pi plus phi, en fonction du nombre de détections. On voit qu'au début, la phase conditionnelle varie de manière un peu erratique, et au bout d'un certain nombre de détections, elle se stabilise. Ici, elle se stabilise à 0,5 radians. Une autre simulation, la phase conditionnelle, ici, elle se stabilise à moins 1,5 radians. Donc vous voyez que la phase de cette sinusoïde, d'une simulation à l'autre, elle n'est pas la même. Mais on voit très clairement qu'au bout d'un certain nombre de détections, elle n'évolue presque plus. Et la visibilité, alors, cette courbe est tirée de l'article de Val, Colette et Wong. Elle donne la visibilité moyennée sur 1000 simulations différentes en fonction du nombre de détections de 0 à 100. Alors, ne regardez pas les courbes K différentes de 0 parce que les courbes K différentes de 0 sont calculées en tenant compte des interactions entre les atomes. Ici, je ne tiens pas compte des interactions entre les atomes, je regarde uniquement la courbe K égale 0. On voit que on part d'une visibilité nulle. Évidemment, la première détection ne donne aucune dépendance sinusoïde. Après la première détection, on a la visibilité 1,5 que je mentionnais tout à l'heure, et puis très rapidement, la visibilité tend vers 1. Au bout de 20-30 détections, on est pratiquement égal à 1. Entre parenthèses, ici, je montre les courbes avec l'effet des interactions, et on voit que si on a des interactions, ces interactions vont détruire la phase relative, et que si on attend trop longtemps, la visibilité va redescendre à cause des interactions, et qu'on va passer par un maximum. Donc, voyez ici concrètement comment cette approche réalisation expérimentale par réalisation expérimentale permet de voir concrètement l'apparition des franges, mais c'est encore un petit peu frustrant ici, parce que quand on fait une simulation numérique, on ne comprend pas, à mon avis, comment la distribution de phases va évoluer, comment elle va s'affiner autour d'une valeur donnée. Donc, ce sera l'objet d'une partie du cours prochain, c'est de prendre un état initial qui est un mélange statistique d'états cohérents qui nous permettra d'obtenir des formules analytiques pour la distribution de phases relatives et qui nous permettra de comprendre comment cette distribution va évoluer, va s'affiner et se stabiliser autour d'une valeur donnée. Voilà.